Entretien avec un évêque. Cette semaine, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Monseigneur Hérouard. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Vous êtes l'évêque auxiliaire du diocèse de Lille. Avec vous, on va aborder un certain nombre de sujets. Dans un instant, Notre-Dame de Paris, deux semaines après le drame, où en est-on ? On évoquera aussi un sujet dont on parle de plus en plus au sein de l'Église et même à l'extérieur, le cléricalisme. Et puis on finira avec un petit mot sur le mois de Marie qui s'ouvre en ce moment. Deux semaines après le terrible incendie qui a ravagé la flèche et la toiture de Notre-Dame de Paris, l'émotion fait place aux solutions. Si certains appellent à une restauration sans précipitation, d'autres, comme le recteur de la cathédrale, Mgr Patrick Chauvet, prônent la construction d'une église en bois, une église éphémère sur le parvis de Notre-Dame. Mgr Hérouard, vous connaissez bien cet édifice puisque vous y avez été ordonné, vous y avez été chanoine aussi. Deux semaines après le drame, l'émotion laisse la place aux solutions. Qu'est-ce que vous vous dites deux semaines après le drame? Que on arrive à transformer l'essai, il y a des choses belles qui germent de ce drame?
On voit qu'il y a eu beaucoup de choses finalement en deux semaines. Donc d'abord une émotion très, très forte et très douloureuse pour beaucoup de gens, pour les Parisiens mais aussi pour d'autres. Et puis ensuite il y a eu tout de suite cet élan de ferveur et de prière aussi autour de la cathédrale. Et qui a peut-être fait prendre conscience que c'est pas seulement un bâtiment de pierre, aussi vénérable soit-il et aussi beau soit-il, mais que sont liés beaucoup d'événements de notre histoire d'abord, et puis c'est le signe de la foi. C'est le signe de la foi de ceux qui l'ont construit, et c'est le signe de la foi encore aujourd'hui. Et voilà, dans notre monde quand même assez déchristianisé, pouvoir se dire que pour beaucoup de gens, ils ont réalisé que finalement, à travers Notre-Dame, il y avait quelque chose de profond qui s'exprimait de ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes. Voilà.
Il y avait une sorte d'union autour de Notre-Dame les jours après le drame, les jours qui ont suivi le drame. Et puis on voit aujourd'hui qu'il y a une forme de division sur les décisions qui sont annoncées. Il y a ceux qui se ravisent après avoir promis des dons, mais en même temps on ouvre les yeux sur le patrimoine qui nous entoure, notre patrimoine direct.
Alors les divisions, c'est toujours un peu franco-français, hein, ça, on est toujours très fort pour savoir ce qu'il faut faire, comment il faut faire, etc. Donc voilà, sur les aspects techniques, moi je ne vais pas me prononcer, hein, enfin, je pense que et à la fois on voit qu'il y a l'ambition de faire rapidement.
Et je pense vous seriez pour quand même une église éphémère sur le parvis de la cathédrale, comme le propose
l'église éphémère, c'est un petit peu une autre signification. C'est de dire aussi que beaucoup de gens vont continuer à venir, et je pense aux touristes, aux étrangers, ils vont venir voir Notre-Dame blessée. Et donc que ça puisse être aussi l'occasion d'un temps de recueillement, d'un temps de prière, d'un temps de... Voilà.
Et donc pour vous, ça serait ça la signification. Cette église éphémère en bois, ce serait la bonne solution.
Enfin, en tout cas, qui est quelque chose qui permette de pas faire simplement d'être les curieux qui prennent une photo d'un monument défiguré, voilà, et que en venant là, il puisse y avoir la possibilité pour ceux qui le souhaitent d'une démarche plus spirituelle, plus de pèlerinage, voilà. Ça, je pense que c'est ça l'idée de Mgr Chauvet. Après. Ce qu'on voit aussi, vous avez souligné que certains, voilà, les promesses de dons, elles sont, ça dit aussi quelque chose sur la place de la cathédrale en France et dans le monde. On voit que certains aussi aujourd'hui se disent, est-ce qu'on n'a pas été trop vite? Est-ce que certains commencent à faire un petit peu marche arrière? Il faut pas s'étonner de cela. Enfin, c'est aussi lié à l'émotion qui a eu lieu. Je pense que c'est aussi une manière, parce que dans la polémique, on essaie d'opposer, dire, tant de millions ou de milliards même pour Notre-Dame, et puis à côté de ça, on a tout notre patrimoine religieux, les petites églises de campagne, etc., qui sont très fragilisées, que les communes n'arrivent pas toujours à entretenir, etc. Alors. C'est bien si ça permet de faire une prise de conscience de ce type. Je crois qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Hein. C'est pas parce qu'il ne faut pas choisir l'un contre l'autre ou l'un à la place de l'autre. Mais il faut aussi se dire que ce patrimoine qui nous a été légué par ceux qui nous ont précédés et qui est le signe aussi et l'expression de la foi, voilà, il a vocation à être entretenu autant que possible. Et puis, y a aussi dans la polémique, j'ai entendu dire oui, mais alors cet argent, on le donne pour des pierres et puis pas pour les pauvres, quoi. Bon, alors là aussi, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre. On peut se rappeler d'ailleurs cette page d'évangile qui paraît d'ailleurs un peu surprenante, hein, quand Marie-Madeleine verse le flacon de parfum d'un grand prix sur les pieds de Jésus. Voilà, il y en a aussi qui disent on aurait pu l'utiliser pour les pauvres. Bon, et je crois que là aussi, il ne s'agit pas d'opposer, il s'agit d'être généreux et attentif aux plus petits, aux plus pauvres, mais en même temps, à travers le bâtiment de la cathédrale, eh bien, il y a quelque chose qui s'exprime de notre identité profonde et que ceci a du prix parce que c'est notre relation à Dieu.
Monseigneur Hérouard, jeudi soir, Monseigneur Ulrich, l'archevêque du diocèse de Lille, a invité les membres du conseil diocésain de pastoral, à peu près 150 personnes représentatives des différentes réalités de l'Église, des prêtres, des bénévoles en paroisse, des animateurs aussi en pastoral, des religieux, des responsables de services d'Église, bref. Ils étaient tous à cette rencontre exceptionnelle autour du thème « L'Église confrontée aux abus sexuels ». Une rencontre qui en appellera une seconde à l'automne sur la gouvernance de l'Église. Sur ce sujet, Monseigneur Hérouard, on entend de plus en plus parler et dénoncer le cléricalisme, ce que les canonistes définissent comme un mauvais ajustement dans le rapport entre le clerc et le laïc. Il parle aussi d'une vision élitiste et exclusive. Enfin, ça, c'est les propos du pape François. Comment retrouver un juste rapport entre clerc et laïc ?
Alors, cette notion du cléricalisme, d'ailleurs, on peut l'étendre, bien sûr, elle s'adresse d'abord aux clercs, hein, c'est évident, et c'est ça qui est visé là, mais elle est aussi toute forme de, on va dire, d'abus de pouvoir, hein, ou de manière dont on exerce sa responsabilité comme un pouvoir, et un pouvoir dominant, et non pas comme un service. Alors, ça concerne les clercs, mais ça peut aussi concerner les laïcs, et ça peut aussi concerner des domaines qui sont...
Ça vient aussi quand même de la notion de saint-prêtre aussi, position qu'on a attribuée aux prêtres, et
bien
que
sûr,
certains se sont appropriés sans problème
à
aussi.
À force de en tout cas dans l'histoire, de présenter les prêtres comme des gens, disons, mis à part, et parfois sur un piédestal, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose là qui est tout à fait... dangereux parce que c'est le maître au-dessus des autres, alors que le prêtre s'il donne sa vie, il le fait comme un service pour Dieu et pour ses frères, pour l'Église, au service des chrétiens. Voilà. Alors il s'agit pas de dire que tout le monde est pareil, que tout le monde vit la même chose, non, bien sûr. Mais on a à se dire qu'à partir de notre baptême commun, c'est ça que nous avons tous en commun comme croyants, certains sont appelés à des fonctions différentes. Et en fonction de ces appels, nous avons à nous mettre au service les uns des autres. Donc la question, elle est vraiment autour de comment est-ce qu'on vit le pouvoir, le mode de décision dans l'Église. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faille faire une espèce de, je sais pas quoi, de démocratie permanente où tout le monde s'exprime et puis c'est le plus grand nombre qui a raison, parce que notre foi et l'organisation de l'Église, elle est aussi fondée sur le Christ, sur les apôtres, sur ce qui a été transmis au fil des siècles. Mais il s'agit de se dire que le prêtre ou l'évêque ou le diacre n'est pas quelqu'un qui, du fait de son ordination, a une espèce de pouvoir absolu.
D'où vient cette crainte de vouloir quand même changer les choses et de considérer le prêtre non plus comme un égal, parce qu'il ne s'agit pas forcément de ça, mais en tout cas de remettre les choses à la bonne place?
Ben, remettre les choses à la bonne place, c'est
parce
aussi...
Il y a une crainte des deux côtés, hein, côté clérical et côté, du côté des laïcs aussi. Enfin,
oui,
c'est un changement...
C'est-à-dire qu'on voit bien aussi que... Du côté laïque, moi je l'ai expérimenté bien des fois quand j'étais curé, et puis beaucoup de gens ont du mal aussi à assumer pleinement les responsabilités qui sont les leurs, la mission qui leur est confiée, le service qui est le leur. Et donc ils ont parfois tendance toujours à se référer aux prêtres et à dire, ben, monsieur le curé, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça, c'est à vous de décider, etc. Et donc il faut qu'on arrive à un fonctionnement, je pense que le mot le plus exact, ce serait un fonctionnement synodal. Synodal, ça veut dire marcher ensemble, où ensemble, on essaie de porter les choses, chacun à notre place. Il ne s'agit pas que les laïcs prennent la place des prêtres et ou qu'on dise qu'on n'a plus besoin de prêtres. C'est absolument pas ça.
Hein.
Si on avançait dans cette voie, on serait vraiment dans une fausse piste.
Et rapidement, vous avez vraiment le sentiment qu'on avance sur cette voie?
Alors, je pense que largement, à travers l'ensemble des conseils, les équipes d'animation paroissiale, les conseils pastoraux, les conseils diocésains, le conseil de l'archevêque, les conseils économiques aussi, toutes les questions matérielles, ben, elles sont quand même assez largement portées par des laïcs. Donc il faut qu'on poursuive dans ce domaine. Et après, c'est vraiment aussi comment les choses sont vécues, parce qu'on peut avoir les meilleures structures. Si on n'est pas dans un esprit d'écoute et d'attention en se disant ben, qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, à quoi est-ce qu'il nous appelle et comment est-ce qu'on peut vivre notre mission le mieux possible les uns et les autres, alors si on ne fait pas ça, on est dans l'erreur.
Et il en sera question à l'automne prochain autour d'une rencontre exceptionnelle donc sur la gouvernance de l'Église, un sujet dont se saisit le diocèse de Lille. On termine, Monseigneur Héroir, avec un mot sur le mois de Marie qui s'ouvre. Les catholiques montrent une affection toujours particulière à la Vierge. Pourquoi le mois de mai et le mois de Marie parmi
Alors,
d'autres hein.
Le mois de Marie parce qu'il se termine sur la fête de la Visitation, le 31 mai.
À Élisabeth.
Marie qui rend visite à sa cousine Élisabeth. Et à travers cette fête qui est à la fois très, très simple, hein, une femme qui est enceinte, qui rend visite à sa cousine qui elle-même attend un enfant, et la joie de ces femmes, eh bien, on voit aussi le projet de Dieu qui se réalise. Et donc, Marie, c'est celle à qui les chrétiens ont toujours confiance pour... confier leur joie, leur peine, leurs espérances, leurs difficultés, et demander à Marie d'intercéder pour eux auprès de Dieu, auprès de son fils Jésus. Et se traduit dans cette attitude toute simple, toute humaine, mais pleine d'attention, de respect et de capacité à être attentif à ce que les gens vivent. Donc c'est pour ça aussi qu'au mois de Marie, au mois de mai, il y a un certain nombre de pèlerinages, un certain nombre de fêtes dans des églises qui sont consacrées à Marie, parce que c'est le moment où chacun est invité à se confier à la Vierge pour qu'elle nous conduise à son Fils.
Et très rapidement, Monseigneur Héroir, est-ce qu'il y aurait une intention de prière à laquelle vous inviteriez les habitants du diocèse de Lille à prier particulièrement pour ce mois de mai?
Je pense qu'il faut prier pour notre Église, parce qu'on voit qu'elle vit des moments à la fois importants et difficiles, pour qu'elle poursuive son chemin de vérité, d'attention aux personnes, en particulier aux personnes qui ont pu être victimes d'abus. Et puis qu'elle sache mieux vivre cette dimension de synodalité à laquelle nous sommes appelés.
Merci beaucoup, Monseigneur Antoine Héroir. Je rappelle que vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Lille.